Nous sommes le 29 février et vous écoutez un dossier de Proxy Jeux. Et ce soir, nous avons la chance de pouvoir échanger avec l'un des membres du jury de l'ESBOR de Cannes, Martin Wittberg. Bonjour Martin.
Bonjour.
Bonjour Jérémy.
Bonjour Olivier, bonjour Martin.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel, d'avoir accepté de discuter un peu de toi et surtout beaucoup de Cannes, de l'ESBOR et de son prix.
Oui, bah merci à vous de m'interroger. Vous savez que c'est un rêve pour moi de passer sur Proxy Jeux.
Ah, mais je sais que tu fais la tournée des podcasts ludiques. Donc,
Voilà. Depuis que j'écoute cette émission, depuis la semaine dernière, je rêve de passer à l'antenne. Je crois que c'est l'aboutissement de ma carrière.
Bon, parfait. Tiens, en parlant de ta carrière, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Martin ?
Donc, moi, je suis dessinateur de presse à la base. Enfin, je fais plein de trucs, hein, parce que tout à la base, je suis enseignant en disponibilité depuis que je fais du dessin de presse de manière un petit peu plus régulière. Et donc, essentiellement pour lemonde.fr et quelques magazines par-ci par-là. C'est mon boulot principal.
Et comment est-ce que tu en es venu à dessiner pour Le Monde ?
Par des moyens complètement détournés. Alors, il se trouve que sur Internet, on est un petit peu en train de tout réinventer, que ce soit les sites magazines comme le son Tric-Trac ou les podcasts comme vous faites. Le dessin de presse, ça n'existait pas non plus. Et donc, moi, j'ai commencé à dessiner sur la presse, parce que je suis dessinateur de bande dessinée de manière plus large. Et ben, j'aime bien l'actualité, tout simplement. Donc, j'ai eu envie de traiter de ce sujet-là. Et au moment où Le Monde cherchait un dessinateur, donc on s'est trouvé. Et puis, ça fonctionne pas trop mal jusqu'à présent. Donc, je suis arrivé en apprenant sur le tas, quoi, de manière fortuite. Mais il n'y a pas d'études de dessinateur de presse, de toute façon.
Et tu es aussi dessinateur, enfin illustrateur de bande dessinée, tu dis ?
Oui, j'ai commencé par la bande dessinée. Mon premier bouquin, mes 5 premiers bouquins ne concernaient pas l'actualité.
Alors, déjà des patates à l'époque ?
Ah oui. Je suis pas un très très grand dessinateur. J'ai trouvé un style qui était à la fois facile à réaliser et puis identifiable pour les lecteurs. Donc, je m'y tiens. Peut-être que je changerai de style selon l'occasion, mais pour l'instant, je m'amuse beaucoup avec.
C'est quelque chose qui est extrêmement reconnaissable. C'est vraiment
voilà,
une patte.
Donc c'est peut-être pour ça aussi que ça fonctionne dans le dessin de presse, parce qu'on voit tout de suite, dès qu'on voit les dessins, on sait que ça va être du léger, que ça ne va pas être un sujet trop trop sérieux. Et puis malgré tout, moi je peux me permettre de faire absolument ce que je veux. Donc à la fois des dessins qui seront un petit peu plus lourds quand le sujet est plus difficile, comme c'est le cas du dessin que j'ai posté aujourd'hui d'ailleurs, si vous recherchez.
Sur l'éducation nationale.
Oui, voilà, on est le 29 février. J'ai posté un sujet qui me tient un petit peu à cœur. Et puis de parler de jeux de société, par exemple, ce que je fais assez régulièrement maintenant sur le blog.
Jeux de société, alors je posais la question pour le dessin politique. Tu es venu comment, jeux de société ?
Alors, je suis venu tout seul, exactement comme pour le dessin de presse. C'est-à-dire que je fais partie d'une grande famille. On était 6 enfants, mais où personne ne joue. Ils ne sont absolument pas joueurs. Et moi, j'ai toujours été très, très joueur dans tout ce que je fais. Il y a un petit côté ludique. Hein. Je pense que même dans ma façon de dessiner, il y a toujours une petite idée derrière qui essaye d'amuser les lecteurs. C'est un peu le fil conducteur. Et donc, j'ai toujours aimé les jeux de société. J'en ai même acheté sans avoir de joueurs autour de moi au début. Et puis, de fil en aiguille, j'ai réussi enfin à me décider à aller dans des associations de jeux. J'en ai trouvé une qui est à 50 km de chez moi, mais je fais la route. Et maintenant, je vis un bonheur ludique parce que je peux enfin jouer régulièrement à tous les jeux qui me faisaient rêver avant.
Tu joues en famille ?
Alors, je joue, depuis que j'ai des gamins, je peux jouer en famille, ouais. Ma femme joue un petit peu aussi, mais pas forcément au jeu que moi j'affectionne le plus, c'est-à-dire qu'elle est très jeu de lettres et jeu de connaissances, elle aime bien ça. Alors, pourquoi pas, hein, moi je suis assez. À partir du moment où on peut jouer, je suis partant. Mais je suis plus amateur de cubes en bois et de jeux un petit peu plus exigeants. Donc, ouais, je fais un peu tous les styles de jeu. Ah, j'étais ravi à Cannes parce que. On a fait une petite interview avec Ludovic Maublanc et c'est le premier joueur qui, au pied auteur de jeu en passant, que j'entendais dire qu'il appréciait également un peu tout, à la fois je sais pas le prononcer, Through the Edges, et puis les jeux beaucoup plus légers comme le nouveau jeu de Vaccarino là qui fonctionne pas mal en ce moment. Non, vous avez pas d'idée ?
C'est Kingdom Builders.
Voilà, Kingdom Builders. Ouais. Et voilà,
jeu très, c'est très familial, très léger.
Un joueur qui apprécie un petit peu tous les styles et qui aime bien un peu la même chose que moi. Et je suis assez content d'avoir travaillé avec lui, en fait.
D'accord. Oui, et justement, comment est-ce que tu en es venu à rencontrer, en fait, On peut penser que ça rejoint, enfin, tes passions se rejoignent, enfin, tes points d'intérêt se rejoignent. C'est-à-dire que c'était peut-être tout naturel, en étant illustrateur et fan de jeux de société, d'illustrer des jeux de société. Mais comment est-ce que tu en es venu à sauter le pas et puis à pouvoir illustrer Casse toi pauvre con?
Alors, pas tout à fait par hasard, là, pour le coup. Puisque donc j'étais inscrit sur TrickTrack, même si je ne participe pas énormément, je suis un petit peu tous les sites et tous les forums qui traitent de la chose ludique, parce qu'en tant que dessinateur, je passe énormément de temps devant mon ordinateur, donc je m'ennuie, et puis j'ai besoin de m'amuser, donc je regarde absolument toutes les vidéos TrickTrack, du début jusqu'à la fin, je dois être un des seuls en France, même le générique de fin, je le regarde, puisque je dessine en même temps, en fait je l'écoute plutôt, ce qui fait que j'entends toutes les blagues de Fall, mais je ne comprends rien aux règles des jeux qu'il explique. J'écoute vos podcasts, la radio des jeux, un petit peu tout ça. Et puis donc, sur de fil en aiguille, je me suis fait remarquer un petit peu sur TrickTrack, puisque je parlais des choses du jeu. Et puis j'ai posté sur le forum, dans une discussion avec Mathieu Despnoux, que je serais absolument ravi si jamais il trouvait un thème un petit peu politique de l'illustrer. Donc c'était une invitation qui était un petit peu lancée comme une bouteille à la mer. Sans imaginer qu'il la ramasserait, mais il s'est empressé de le faire. Eh bien, lui en a pris parce qu'on s'est beaucoup amusé hein, sur les deux petits jeux qu'on a illustrés.
Donc là, il va sortir, il n'est peut-être toujours pas sorti, si j'étais président.
Alors voilà, on a fait d'abord Casse-toi pauvre con, qui est un jeu dont le titre est un petit peu racoleur. Hein, il est signé Mathieu Despnoux, qui aime bien faire remuer un petit peu les choses. Et puis, donc maintenant, si j'étais président. Donc ces deux jeux qui traitent de la chose politique. Mais c'est pas parce que c'est souvent, on nous accuse souvent de faire des jeux, enfin on nous accuse, on nous le fait remarquer, hein, qui surfent un petit peu sur la vague ou qui essayent de profiter d'un buzz. Nous, l'idée c'était vraiment de s'amuser. Moi, c'était de mettre un petit peu les pieds dans ce monde que j'apprécie. Et puis eux aussi, hein, de tenter quelque chose d'un petit peu différent et puis d'aller dans les festivals avec un petit objet qui n'est pas ambitieux forcément, mais qui est là pour apporter un petit peu de plaisir, quoi. Ce sont des jeux d'ambiance.
Et par rapport à ça, est-ce qu'il y aura est-ce que tu sais si Mathieu veut lancer une gamme de jeux de poche politique?
Non, on avance vraiment à vue, on n'a réfléchi absolument à rien, on a fait des jeux qui nous amusaient. Alors Casse-toi pauvre con, c'est un jeu très très simple, puisqu'on est sur le principe de Où est Charlie, on essaie de retrouver des personnalités dans une foule. Et puis voilà, c'est un jeu simple qui peut s'amuser, qui marche très bien avec les gamins d'ailleurs. Ils apprécient assez d'aller chercher les personnages et puis de crier la fameuse phrase qu'il ne faut pas dire trop fort. Et puis on n'avait pas prévu de faire un autre jeu après. Il se trouve qu'on a réfléchi comme ça plus ou moins, parce que le premier a quand même relativement bien marché, et qu'on a trouvé cette idée-là de construire un gouvernement sur lequel Ludovic a trouvé un thème qui collait pas mal du tout. Et donc, comme on avait à la fois l'idée, le thème, le mécanisme qui fonctionnait bien, on a fait le jeu, mais ce n'était pas un plan de carrière. Hein. Mmh. Et rien ne dit que ça fonctionnera de la même façon.
Est-ce que tu aurais envie en fait d'aller un peu plus loin et puis d'illustrer un jeu un peu plus gros, en fait, pas qu'un jeu de poche, mais justement un jeu de cube en bois et puis de faire autre chose en fait que du thème politique?
Non, parce que sur l'illustration, j'ai pas. Ou alors il faudrait que je fasse complètement autre chose que des patates. Hein. Ces personnages-là ne fonctionnent qu'avec ce type de jeu. Donc c'est très bien qu'on ait fait ça. Peut-être qu'il y aura d'autres choses. Alors, pas forcément sur la politique, mais dans des optiques un petit peu différentes. En fait, pour tout dire, on a déjà un projet avec Mathieu Despnoux, mais qui est complètement différent de ces deux-là. Mais par contre, voilà, j'irai pas chez d'autres éditeurs avec les mêmes personnages pour faire un jeu de cube en bois avec des patates. Je pense pas que ça collerait forcément très bien. Je vais pas essayer de me vendre à tout prix puis d'avoir une grande carrière dans le jeu. Ouais, alors, ce que j'aimerais bien faire, mais comme n'importe quel joueur, c'est inventer un fonctionnement, un mécanisme. Ça me plairait beaucoup.
Ah, tu veux passer la barrière et puis passer du statut d'illustrateur au statut d'auteur.
J'ai dit ce que j'aimerais bien faire.
D'accord, non, mais c'est
comme
bien,
beaucoup
c'est
de
bien.
Personnes, j'aimerais bien, ça me plairait bien de composer mon jeu, parce qu'on a tous des préférences dans le domaine du jeu. Moi, j'aime bien le deck building, j'aime bien les processus d'enchères. Donc on rêve tous d'un jeu idéal qui réunit un petit peu tous les goûts qu'on a dans le jeu de société. Par contre, fabriquer un jeu, c'est très compliqué. Hein. Tous ceux qui se sont essayés savent bien que ça ne se fait pas comme ça en mélangeant un petit peu tout ce qu'on aime. Il faut réussir à trouver à la fois le thème, le mécanisme, le fonctionnement, puis l'originalité qui font que ça sera pas une redite de ce qui existe déjà. Moi, pour l'instant, j'ai jamais conçu quoi que ce soit de suffisamment intéressant, puis j'ai jamais eu le temps de creuser plus que ça, mais dans l'absolu, ouais, ça me plairait. Je sais pas un projet plus avancé que ça.
Ok.
Mais plus, voilà, c'est pour répondre à ta question. Ça me plairait plus que de devenir un illustrateur de jeux à part entière. Je pense pas que j'en ai le talent.
Et peut-être que. Comment est-ce que tu ressens, justement, parce que dans le jeu de société, il y a un statut d'auteur,
Oui.
il y a.
Enfin, il y a un statut d'auteur du point de vue légal, tu veux dire,
Non,
ou...
non, 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 je veux dire que
Parce que du point de vue légal, il n'y a pas grand-chose.
en tant que joueur, si tu veux, quand tu regardes la boîte, en général,
Ah
tu vas dire
oui.
c'est un Boza, c'est un Knizia, c'est
Voilà, oui.
un ce que tu veux. Par contre, à part Marie Cardoi, à part certains noms comme ça, et le tien, forcément, est super reconnaissable, mais ta patte est super reconnaissable. On connaît très peu d'illustrateurs. Et comment tu le ressens, ça? Enfin, est-ce que
Alors,
tu...
les éditeurs connaissent souvent un peu les auteurs, quand même, les illustrateurs, c'est le principal, hein, c'est pas, je pense pas que tous les illustrateurs ont envie d'être reconnus en tant que tels et cherchent une célébrité. Par contre, c'est vrai que c'est important qu'on reconnaisse les illustrateurs à part entière pour le travail qu'ils font, parce qu'ils apportent beaucoup aux jeux de société. Le fait qu'on ait des illustrateurs un petit peu reconnus, alors comme Marie Cardoi, mais comme Nayad, là, qui est en train de travailler sur Season chez Libellule, je ne sais pas si
Ouais.
tu as vu ce jeu, c'est magnifique, hein,
Tout à fait.
l'illustration. Et rien que l'illustration, ça donne envie d'aller voir le jeu. On ne sait pas encore de quoi ça parle, mais on a envie de voir ce dont il retourne. Ça contribue énormément au succès des jeux après. Et c'est un produit qui est visuel aussi. Donc on a besoin de mettre en avant les illustrateurs et on a besoin d'éditeurs comme Libellule qui font le travail, qui vont aller chercher des gens et qui vont investir un petit peu d'argent là-dedans pour avoir une qualité qui sera supérieure à celle des jeux qu'on trouve en grande surface avec des éclatés et puis des couleurs un petit peu criardes. Parce que je suis convaincu aussi que les gens, que ce soit des clients de grande surface ou des clients de boutiques spécialisées, ils sont sensibles aussi à l'illustration. Ils ne sont pas aussi incultes qu'on veut bien le croire. Même s'ils voient mieux le fluo, je pense qu'après, ils arriveront aussi à acheter d'autres types de jeux. D'ailleurs, le succès de Dixit en témoigne. Donc oui, moi, j'ai bien envie qu'on mette un petit peu plus en avant les illustrateurs, que les éditeurs les reconnaissent entre eux. Et puis voilà, je serais ravi, par exemple, qu'il existe un prix de l'illustrateur en France. Ça apporterait pas mal.
Ouais, tout à fait. Jérémy, tu voulais poser une question? Je t'ai coupé, peut-être. Comme d'hab, en fait.
Ouais, mais je sais plus du coup.
D'accord. Donc, on sait maintenant comment tu es venu à illustrer des jeux de société, mais comment est-ce que tu es venu à devenir juré pour l'As d'Or de Cannes? Comment ça s'est
Alors,
passé?
ouais, ce que j'ai compris, moi, parce que moi, j'ai reçu un mail me demandant si je voulais bien, et puis je voulais bien. C'est aussi bête que ça, hein. On m'a proposé de jouer, puis de venir régulièrement faire des tests, donc j'étais absolument ravi. Ce que j'ai compris, c'est que le jury avait envie d'avoir un petit regard un peu extérieur au monde du jeu, puisqu'il n'y a que des personnalités du jeu qui faisaient partie du jury, et ils cherchaient des personnalités qui sont à la fois un peu reconnus, alors je ne suis pas forcément une immense star, mais qui ont accès aux médias, et à d'autres médias que ceux que Trick Track, quoi, parce que c'est malgré tout, il reste essentiellement un média, puis une multitude de blogs qui gravitent autour. Et puis voilà, donc c'était une opportunité d'avoir quelqu'un d'autre. C'est ce qu'ils ont imaginé. Et au début, ils m'ont bien dit qu'ils ne savaient pas vraiment si j'étais un très très gros joueur ou un joueur occasionnel, ils m'ont bien dit que ça posait pas de problème, que le principal c'est que de participer en jouant à tous les jeux de la liste, les jeux qui seraient en lice, quoi.
D'accord.
Il se trouve que je suis quand même un gros joueur et que finalement, même moi je me demandais, hein, si je jouais à suffisamment de jeux pour avoir les capacités de participer à la sélection comme il convenait, et j'ai eu aucun problème sur ce plan-là.
Et donc justement, tu peux nous rappeler un petit peu comment ça se passe. Il y a 12 nominés. D'abord, comment est-ce que vous arrivez sur cette liste des 12 noms?
Alors il y a un fonctionnement qui est pas mal du tout. En fait, on a un tableur sur Google Doc où tous les membres du jury, au gré de leur réunion et de leur expérience de jeu, vont entrer tous les jeux auxquels ils ont joué et attribuer une note. Alors la note, c'est un petit peu... Ce n'est pas une note de 0 à 20, hein, c'est 1, 2 ou 3, en sachant qu'il n'y a que les 3 qui comptent finalement. Donc on met 1, 2 ou 3 et au gré de nos réunions, parce qu'il y a des ludothécaires dans la liste, il y a M. Fall qui lui teste absolument tout ce qui passe dans son officine, comme il dit. Et puis voilà, on met un petit peu tous les jeux qu'on teste, et après on se réunit et on va essayer de tester tous les jeux qui ont obtenu des 3. Donc, qui ont été appréciés par chaque membre du jury. On a plusieurs réunions dans l'année qui ont lieu à Paris. Donc, on ramène les jeux qu'on a bien aimés. On n'a pas le temps de tester beaucoup de jeux entre nous, parce que ce n'est pas en trois réunions qu'on va... trois ou quatre réunions qu'on va tester des centaines de jeux. Hein. Ça permet surtout de faire le bilan de tous les jeux qu'on a vus et qu'on devrait voir, qu'on a pu manquer, que les autres ont vus. Donc après, on repart avec une liste, on va les rejouer un petit peu chacun de notre côté chez nous, on essaye d'avoir un avis sur tout ce qui se passe, on se réunit, on refait un bilan et ainsi de suite jusqu'à arriver à une réunion en janvier où là, on va établir la liste des 12 nominés.
Et au final, pendant ces 10-12 mois, tu en as testé combien? Enfin, ça représente quel volume?
Alors, c'est difficile à dire, hein, parce que je ne m'amuse pas en plus à compter le nombre de jeux qui ont été sélectionnés. Moi, j'en ai reçu ou acheté une bonne centaine, je crois, de jeux dans l'année, largement. Je ne sais pas combien il en paraît en France. C'est un truc du genre 700, non?
À Essen, l'année dernière, il y en avait 700, effectivement.
Donc c'est dans ces eaux-là. Mais bon, tu sais, on arrive à faire pas mal de sélections... de jeux en recoupant un petit peu les trucs que les uns et les autres ont vus. Donc bon voilà, j'en ai déjà une bonne centaine chez moi que je teste, que je joue, puis bon, de fil en aiguille on arrive à limiter une liste et d'arriver en janvier avec une vingtaine de jeux qu'on apprécie pas mal chacun, quoi, sur lesquels qu'on va mettre en commun et sur lesquels on va essayer, et ça c'est un sacré boulot, de faire une liste de 12.
Ouais, c'est ça, je veux dire, en janvier, vous sortez les couteaux et puis c'est les duels qui commencent, c'est ça, pour savoir lequel sera en avant.
Voilà, ça peut faire de grands débats. On essaye toujours d'avoir un petit peu de débat parce que ça fait partie du folklore du jury. Hein, même si on est à peu près d'accord, ce qui a été le cas cette année et puis relativement l'année dernière aussi, on a besoin d'avoir des moments où la voix s'élève un petit peu, où on chipote un peu, parce que si tu veux, on a l'impression d'avoir vraiment fait le boulot, d'avoir vraiment essayé de défendre nos intérêts et puis nos intérêts, c'est-à-dire le goût qu'on a pour le jeu qu'on défend, parce qu'on n'a pas tous les mêmes favoris, évidemment. Mais bon, les deux années auxquelles j'ai participé, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de... Pour Takenoko, ça a été une unanimité assez rapide, et bon, il n'y a pas eu des discussions et des discussions pour savoir si oui ou non, il fallait qu'il ait le prix.
Donc là tu parles déjà de l'étape d'après, qui est de décerner le prix. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler les catégories ou les prix que vous avez décernés ou que vous décernez lors de l'Azor?
Alors depuis pas mal d'années, je ne sais pas combien, parce que je n'ai pas révisé avant et puis je n'ai pas été voir, il y a trois prix. Donc il y a un prix enfant,
ouais,
qui doit être appelé l'As d'or enfant, tout simplement. As d'or jeu de l'année, je crois, hein, l'intitulé exact, puisque ça a été la réunion de deux prix qui existaient, qui étaient séparés avant. Il y a l'As d'or jeu de l'année tout court, qui est en fait le prix familial, qui essaye de récompenser un jeu qui va pouvoir attirer un public à la fois familial et puis un public de joueurs adultes, mais qui n'est pas encore rompu au jeu un petit peu plus compliqué que nous, on a l'habitude de faire. Et puis un prix qu'on va qualifier d'expert ou de passionné, qui a été rebaptisé cette année Grand Prix. Mais bon, voilà, c'est le prix du jeu pour joueurs passionnés. Donc ça, c'est les trois prix qui sont remis tous les ans depuis pas mal d'années maintenant. Et puis cette année, on a eu envie en plus de mettre à l'honneur un jeu. Donc ça a été le prix du jury, pour des raisons qu'il faut évidemment expliquer, parce que sinon ça fait bizarre, on ne comprend pas du tout pourquoi il sort du chapeau.
Non, mais moi, je l'avais dit qu'il fallait qu'il y soit. J'avais dit qu'il ne pouvait pas y être. Mais
Voilà, c'est ça. Oui, tu en avais parlé un petit peu avant. Mais Sherlock Holmes Detective Conseil, donc c'est un excellent jeu qui est une réédition d'un jeu qui est paru il y a 25 ans, donc qui date un petit peu, qu'on pouvait évidemment pas mettre dans les trois autres prix, trois prix classiques, mais qu'on avait quand même envie de mettre à l'honneur, parce qu'il y a eu un travail absolument remarquable d'Istari, pour une part, qui a fait une réédition qui est somptueuse. Hein, le jeu est bien meilleur que ce qu'il était avant. Et puis d'autre part, c'est un jeu important, c'est un jeu qui amène beaucoup de joueurs aux jeux de société, qui réunit des gens autour d'une table, parce qu'en fait, le gros du travail qu'on a à faire, c'est de montrer aux gens qu'on peut s'amuser autour d'une table à une époque où ils sont habitués par les ordinateurs et les consoles de jeux, voire les tablettes maintenant. Et voilà, ce jeu-là permet ça. Donc on avait envie de le souligner, de le mettre un petit peu à l'honneur, parce que c'est le travail du Festival de Cannes. Donc, mais c'est un prix qui est un petit peu quand même sur le côté. Hein. Je ne sais pas du tout si l'année prochaine, il y aura un prix du jury, et s'il reviendra comme ça à un ovni ludique... S'il y aura matière à donner ça, cette année, il y avait vraiment une nécessité de mettre ce jeu-là à l'honneur.
Le Spiel des Sciences.
Il n'empêche qu'il y a trois prix. Un prix enfant, un prix familial et puis un prix pour joueurs passionnés.
Ouais, sur le site du Festival des Jeux de Cannes, il n'est d'ailleurs pas mis en avant tant que ça, comme détective conseil, il n'est pas cité dans le palmarès de MeToo.
Oui, bah voilà, parce que c'est un petit peu à côté. Il faut que,
ouais.
Alors, je comprends, j'ai entendu pas mal de gens qui ne comprenaient pas parce qu'on a peut-être manqué de pédagogie quand on a annoncé le prix et expliqué aussi parce qu'on avait envie de faire une surprise à Cyril Demey qui était dans la salle. Voilà, c'est agréable aussi de faire une petite surprise et puis d'avoir un petit effet. Mais les gens qui lisent le compte-rendu après se demandent un petit peu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un quatrième prix? C'est pour ça que je suis tout content de venir vous expliquer un petit peu que c'est un prix du jury, quoi. C'est le prix d'honneur qui est attribué en plus.
Ouais. Ce qui surprenait un petit peu, c'est que il enfreint pas mal de règles qu'on est habitué à connaître sur ce prix, c'est pour ça.
Oui,
que
mais voilà, on s'en fout un petit peu. Ça, le but du jeu, c'est de. Les règles, elles sont pour les trois autres prix. Là, on est le prix que le jury fait ce qu'il veut, quoi. Si tu veux là-dessus, c'est pas. Ouais. On n'en fera rien du tout. C'est juste une récompense.
Oui, tout à fait.
Mais ce qui m'a amusé, c'est que j'ai vu sur le site de Ludocortex, ils ont annoncé les prix comme d'habitude, ce qu'ils font toujours, puisqu'ils présentent les jeux pendant le Festival de Cannes. Mais ils n'ont pas repris les intitulés, ce qui prouve qu'au moins il y a un léger flou sur les intitulés. On ne sait pas vraiment. Certaines personnes n'ont pas très bien compris ce qu'il en était de chaque prix. Pour Olympo, de noter Grand Prix, comme ça a été intitulé par le Festival de Cannes, ils ont marqué joueur passionné, je crois. Comme ça, bon, bah, c'était plus clair pour les visiteurs du site. Ouais, donc je comprends qu'il y ait pu y avoir une petite confusion là-dessus. Mais voilà, je pense que cette mise en avant de Sherlock Holmes Détective Conseil, elle était vraiment bienvenue, parce qu'elle apporte quelque chose aux jeux de société de manière générale. Ouais. Et d'ailleurs, je l'ai bien vu, parce que moi, j'en ai parlé dimanche sur mon blog, j'ai mis le jeu en avant, j'étais ravi de le faire, et j'ai eu pas mal de retours depuis sur Twitter et ailleurs de gens qui m'ont dit qu'ils avaient vraiment beaucoup apprécié le jeu et découvert une autre approche de société, bien loin de l'image qu'ils avaient du Monopoly ou d'autres choses, parce que moi, j'ai des visiteurs qui font du Monopoly, surtout.
Ah.
Ouais, mais il faut bien commencer par quelque part.
Ah ben, je fais un travail de défrichage. J'essaye d'amener des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer à découvrir des jeux qui sont de qualité.
Passer du Monopoly à Sherlock Holmes, ça fait quand même un sacré saut.
C'est pas très très compliqué, parce que Sherlock Holmes, c'est un jeu vraiment basique au niveau des règles.
C'est vrai.
Grand chose de compliqué. C'est, au contraire, c'est beaucoup plus amusant que le Monopoly. J'imagine que si on fait jouer un panel d'adultes pris au hasard dans la population au Monopoly, il y en a beaucoup qui vont quitter la table au bout de 10 minutes. Je suis pas sûr qu'il y en ait autant qui quittent la table à une partie de Sherlock Holmes. Là où il y a une tendance actuelle aussi, c'est dans le type de jeu, c'est-à-dire le jeu d'ambiance qu'on va interpréter, où on va mettre un petit peu de soi-même. Là, il y a quelque chose en plus dans Sherlock Holmes qu'on a retrouvé aussi dans Les Demeures de l'Épouvante. C'est pour ça que ce jeu, qui est beaucoup plus compliqué que les autres de la liste, fait partie de la liste des nominés 2012. J'anticipe une question que tu allais probablement me poser.
Non, moi, je voulais poser une question. Est-ce que tu regrettes un jeu qui n'est pas dans la liste? C'est-à-dire, est-ce que tu regrettes qu'un jeu ne soit pas rentré dans les nominés?
Bah, plus qu'un, parce que si tu veux, on a une liste de. Alors pourquoi la liste fait 12 jeux cette année et 10 l'année dernière? C'est parce que déjà, on regrettait des jeux qu'on n'arrivait pas à mettre dans les 10, parce que la règle de base, c'était d'en mettre 10. Donc on s'est fait plaisir, on en a mis 12. Est-ce que c'était un bon choix? On peut en discuter. Je suis pas sûr, parce que le soir de la remise de prix, on se rend compte qu'il y a 4, il y avait 4 vainqueurs ce coup-ci, mais il y avait, du coup, vu qu'il y avait 12 nominés, il y avait 9, il y avait 9 déçus. Puisque Sherlock Holmes ne faisait pas partie des 12. Et nous, on est là pour mettre des récompenses et essayer de mettre un petit peu le jeu à l'honneur. Moi, j'ai toujours du mal à voir les gens qui font partie de la liste, qui parfois même sont des copains parce qu'on les a croisés en dehors, on a discuté avec eux, puis de voir que bah, ça les touche malgré tout, ce qui prouve que le prix est important. Alors, ça fait partie du jeu, il faut passer par là, mais voilà, c'est difficile. On ne pourrait pas en mettre 25, ça ne servirait strictement à rien si ce n'est à décevoir 22 personnes.
Mais. Quand vous choisissez les
12. Il y a plein de jeux que moi j'aurais bien vu dans la liste qui avaient tout autant leur place, probablement. Alors tout autant, après il y a plein de critères qui rentrent en compte, on essaye de discuter, de se mettre d'accord, et puis on rentre dans le subjectif, hein, tout est discutable. Et vous, quand vous discutez de la liste et que vous dites bah, c'est dommage que tel jeu n'y soit pas, c'est parfaitement logique, et puis c'est bien aussi que chacun ait sa liste qui soit un petit peu différente les unes des autres. Alors vous comprenez bien que les 6 membres du jury, dont on n'avait pas la même liste de 10 jeux, et qu'il n'y a aucun membre qui finalement a gagné avec sa liste à lui, qui l'a imposé à tous les autres.
Mais toi, à titre personnel, est-ce qu'il y a un jeu que tu pourrais citer que tu regrettes de ne pas avoir vu nommer?
Alors, il y a peut-être The Few Acres of Snow, que moi j'aime beaucoup, qui a le défaut d'être un jeu de joueurs, donc ça, c'est jamais évident de les mettre à l'honneur, parce que c'est difficile de les sortir aussi. Donc il y a peut-être celui-là, ouais, éventuellement. Alors après, il faudrait que je regarde un petit peu toute la liste pour voir les jeux que moi j'ai adorés et qui n'y sont pas.
Non, mais moi, ça me convient.
Ouais, voilà. Mais bon, je suis un joueur de gros jeux, a priori, même si j'ai beaucoup de plaisir à faire les plus petits. Donc je vais te citer tout un tas de gros jeux que j'ai adorés, que j'aurais bien vu en plus, parce que j'ai passé du temps dessus. J'ai adoré Civilization aussi. La réédition améliorée du jeu chez Edge, que moi je trouve absolument remarquable, qui est épique, qui est critiqué parce qu'il y a un poil de hasard, et puis on peut discuter beaucoup des règles. Tu sais, c'est un jeu à l'américaine où on interprète tous un petit peu les règles, et puis on essaye, et puis parfois on n'est pas d'accord, et puis on va s'engueuler parce qu'on n'a pas la même interprétation des règles, et c'est une des raisons pour laquelle il n'est pas dans la liste finalement. C'est peut-être compliqué de le mettre en avant, et sur ces gros jeux-là, on se dit que si on en parle sur les forums, si on les met tous en avant, on arrivera quand même à les faire jouer par les joueurs auxquels ils sont destinés. Donc voilà, on a essayé d'en mettre un ou deux. On a mis notamment les Demeures de l'Épouvante, mais on ne peut pas en mettre 10. Moi, j'en aurais bien mis 10.
Ouais, parce que le but premier...
Je suis déçu de pas mal de jeux de ce type-là.
Le but premier de Lesdor, c'est quand même faire la promotion du jeu de société et faire venir des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir...
Voilà, c'est pour ça que le prix passionné qui revient cette année à Olympos, on se fait plaisir, il est important parce qu'il met à l'honneur un éditeur au sein d'une production. Mais je ne pense pas que ça soit le prix qui apporte le plus médiatiquement et qui apporte le plus en matière de vente, il faut en être conscient aussi. Je pense qu'au niveau des jeux passionnés, un prix comme le Trick Track d'Or a peut-être plus d'influence que le prix des gros jeux à Cannes. Et c'est très bien comme ça.
Quand vous faites la sélection des 12 nominés, il y en a déjà, vous les mettez dedans, parce que quand même les Demeures de l'Épouvante, tu sais déjà quand tu le mets que ce ne sera pas de jeu primé. Est-ce que vous avez déjà décidé lesquels seront primés quand vous nommez les 12? Ou bien il y a encore une tractation, enfin il y a encore une discussion derrière, etc. Une dernière.
On a des petites préférences,
ouais.
Individuellement, mais collectivement, non. On ne dit pas d'entrée de jeu,
d'accord.
Bon, ça sera celui-là. On essaye vraiment d'avoir. Là, il y en avait 12, donc 4 jeux adultes, enfin adultes pour joueurs passionnés, 4 jeux familiaux qui peuvent avoir l'as d'or, celui qui est mis en avant, et puis 4 jeux pour enfants.
D'accord.
3,5 en fait, puisque Sandwich était un petit peu entre le jeu pour enfants et le jeu familial. C'est pour ça aussi qu'on délivre une liste qui n'est pas cloisonnée. On n'a pas fait un prix du jeu enfant avec 4 nominés pour le jeu pour enfants. Parce que chaque année, il y a un jeu qui est un petit peu à cheval entre deux catégories. On ne sait pas vraiment où le situer. Et puis, on n'a pas envie de le situer, tout simplement. Parce que classer un jeu, c'est forcer les gens à ne pas y jouer s'ils ne sont pas dans la bonne catégorie. J'ai des exemples que je peux vous citer très simplement. L'année dernière, on avait Water Lily, qui était pour moi un jeu familial. Un excellent jeu familial, d'ailleurs. Et que beaucoup de joueurs voyaient comme un jeu pour enfants. Donc, c'était bien de ne pas le classer, de pas dire non, c'est un jeu familial et on interdit aux enfants d'aller voir. Ça ne pose pas de problème si les enfants vont y jouer.
Non, et là, c'est un atout, je pense, justement, de l'As d'Or. Justement, de ne pas catégoriser, c'est effectivement. On n'a pas parlé, on a cherché la polémique, mais c'est vrai que là-dessus, par contre, non, c'est un atout. Je m'étais déjà dit. C'est vrai, il n'y a pas la catégorie pour
toi. Alors après, tout le monde n'est pas d'accord sur ce point de vue. Il y a des gens qui me disent « Non, moi, je trouve que ce serait beaucoup mieux de les catégoriser. » Je peux expliquer pourquoi je préfère que ça soit un vrac, même si on arrive très bien à voir les catégories très rapidement. Hein. Mais on peut ne pas être d'accord, c'est parfaitement justifiable. Je comprends tout à fait qu'on me dise que ça serait mieux de les catégoriser. Chacun son avis. Il y a aussi Seven Wonders l'année dernière, que je ne savais pas situer. Entre jeux pour joueurs et puis jeux familiaux, franchement, je ne saurais pas dire.
Ouais, moi je regarde si je peux le sortir avec n'importe qui ou pas en fait. En l'occurrence, oui, Seven Wonders, ça store avec n'importe qui.
Toi tu le rentres dans les jeux familiaux.
Il a eu le plus familial, ouais.
Moi aussi je le mets dans les jeux familiaux. J'ai réussi à le sortir avec ma belle-mère, ce qui est mon critère de base. Donc c'est un jeu familial. Mais l'année dernière, on lui a mis le prix du jeu pour joueurs passionnés. Donc tu vois, c'est un petit peu flou.
Ouais, mais c'était par rapport aussi à Skull and Roses. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réelle différence entre les deux jeux. Et il y aurait eu deux jeux familiaux en fin de compte.
Il est à noter qu'en Allemagne, il a aussi le prix
Kennerspiel
pour joueurs.
Ouais, ils vous ont copié en Allemagne.
Ouais, peut-être. Non, en fait, je pense qu'en Allemagne, ils se sont dit qu'ils voulaient créer ce prix-là parce qu'ils ont un public qui est un petit peu plus large, qui a vieilli aussi, donc qui a appris à jouer à des jeux de différents types. Et ils ont besoin d'avoir un prix pour joueurs et puis un prix plus familial que ce qu'ils peuvent avoir. Donc, il s'est trouvé que l'année de Seven Wonders, c'était peut-être la bonne année pour créer ce prix, profiter de la notoriété d'un jeu qui s'installait très facilement et qui, de toute façon, aurait du succès pour donner une vraie notoriété à leur prix. Et c'est un bon calcul parce que ça a visiblement très, très bien marché.
Ouais, surtout que les deux années précédentes, il y a eu Dominion, puis après, il y a eu Dixit, donc deux jeux vraiment justement, qui étaient dans deux catégories, on peut dire quand même.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Et effectivement, ouais. Je pense que sur ces deux années, ils auraient peut-être déjà eu envie de le créer. L'année dernière, effectivement, c'était le bon moment pour le faire.
Voilà, on va profiter un petit peu de ce qui se passe. Nous, l'année dernière, on avait déjà parlé de faire un prix du jury en plus des trois prix qui traditionnels. Mais bon, il n'y avait peut-être pas de jeux qui ressortaient vraiment. Et cette année, le fait qu'il y ait Sherlock Holmes, ça nous a amené à créer ce prix du jury. Voilà, il y a aussi les jeux qui peuvent produire la sélection.
Oui, le Spiel l'a fait avec Agricola en 2008. Hein. Agricola, il a eu un prix spécial, pareil, parce qu'ils n'arrivaient pas à le catégoriser. Ils ne pouvaient pas lui faire gagner le prix. Et donc, du coup, il a eu son prix spécial.
Ceci dit, Agricola est un jeu qui est assez complexe dans la façon de jouer, mais qui peut être abordé de manière très familiale. Hein,
donc... Et qui est très familial, ouais, effectivement. En fait, je me perçois que je peux le sortir quasiment avec n'importe qui.
Oui, moi aussi. Ouais.
Et qu'on refait une deuxième partie dans la foulée, souvent de la première, tellement ils sont frustrés d'avoir ne pas avoir réussi à faire tout ce qu'ils voulaient dans la première partie.
Ouais, ce qui me fait dire que tu n'invites pas n'importe qui non plus, mais... Si tu fais deux parties de deux heures de jeu de société.
Ah oui, oui. Non. En draft, évidemment. Hein.
Agricola, c'est une heure. Faut arrêter. À quatre, c'est une heure. Avec...
Bah, pas en draftant les cartes, parce que moi, je n'envisage plus de jouer à Agricola sans drafter.
Ah non, mais attends. Hey, je parle de faire découvrir à des joueurs occasionnels, donc non, on peut faire la version famille. Hein. Mais je suis d'accord que je peux faire la version carte, effectivement. Mais... Non, je ne fais pas drafter à des débutants. Sinon, ils sont perdus. Du coup, quand même, pour revenir à ma question, donc vous en nommez 12, et ensuite vous refaites un point pour choisir lesquels vous primez réellement. Comment
voilà. Voilà, donc après, bah, faut se mettre d'accord sur les quatre prix. Cette année, ça s'est passé très facilement. Donc là, il n'y a pas de règle. Hein. Par contre, je ne vais pas te dire, on fait de telle façon, on fait un vote, on fait un truc. Ça ne marche pas comme ça. On essaie quand même d'être d'accord, et puis il y a tous des arguments à sortir, hein, malgré tout. Comme tu l'as dit, l'année dernière, le fait de mettre Skull and Roses jeu de l'année, parce qu'on pensait sincèrement, et puis je le pense toujours, que ce jeu-là apportait un petit regard différent sur le jeu de société, si tu veux. C'est un jeu qui est à la fois familial, mais qui avait un thème qui n'était pas du tout, donc qui pouvait peut-être amener des adultes qui jusqu'à présent voyaient les jeux de société comme des produits pour enfants à regarder notre univers de manière un petit peu différente. Donc on avait choisi Skull and Roses à l'unanimité, hein, sans qu'il y ait de polémique ni quoi que ce soit de compliqué à faire. Et puis donc par rapport à ça, on a choisi Seven Wonders pour le prix des joueurs passionnés. Donc voilà, il y a des discussions, on essaye un petit peu de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, mais il n'y a pas de règle absolue pour trouver quels seront les jeux qui auront le prix. Ça te fait marrer hein, que je parle de Skull and Roses?
Non, non. Pourquoi? Non,
je sais pas, je croyais entendre en arrière-plan des...
Non, mais j'ai déjà expliqué dans les commentaires.
Non, puis d'accord. Je pense, enfin moi, ce que je retiens en fait des discussions qu'on peut, enfin de la discussion de ce soir et des discussions qu'on peut avoir, c'est que c'est le prix français en fait, comme le Spiel des Serres. On s'attendait à ce que ce soit plus strict, mais moi, en fin de compte, en discutant avec toi, ce que je comprends, c'est que voilà, il y a des gens derrière et que bah voilà, vous voulez primer un jeu, vous le primez et puis vous faites en toute conscience, quoi. Il n'y a pas de...
Voilà,
je sais
voilà,
pas, dis-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression...
Si ça te faisait rire, parce que je pourrais entendre un bruit de rire derrière. En fait, il y a des parasites sur la ligne. Parce qu'il y a eu pas mal de polémiques après Skull and Roses, beaucoup moins cette année, c'est agréable. qui, moi, m'ont surpris, parce que si tu veux, nous, on s'attendait absolument pas à ce qu'il y ait plein de critiques. Alors sur Skull and Roses, je crois que c'était parce qu'il y avait parce que le jeu était sorti de manière très très proche en fait de la remise du prix,
oui.
et que du coup ça ne serait pas rentré dans les règles, ce qui était faux, hein, soit dit en passant, puisque les règles disaient pas grand-chose. Il fallait juste que le jeu soit sorti disponible au moment de la remise du prix, ce qui était le cas. Donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Et puis c'est un jeu qu'on avait testé de manière tout à fait normale. On l'avait vu depuis le début de nos sélections, et il n'y avait pas eu de souci par rapport... Enfin, nous, on avait à déceler absolument aucun souci sur ce jeu-là.
Vous l'aviez testé dans une version commercialisée. C'était pas un proto, c'était la version qui allait sortir.
Oui, à peu de choses près, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de différence. Mais voilà, on avait été assez surpris de la polémique qui avait suivi. Bon, une polémique dans notre tout petit milieu, parce que bon, ça n'a pas non plus... je ne crois pas qu'il y ait eu de suite en justice, hein, faut pas aller jusque-là. Et puis du coup, on a tenu compte quand même, parce que malgré tout, on essaye de faire un prix qui plaise à la fois aux joueurs et puis au grand public. Donc cette année, on a évité d'avoir des jeux qui sortaient le jour même du Festival de Cannes, même s'il y en a de très bons qui sont sortis depuis. Hein. Je pense à Pix notamment, qui est vraiment un super jeu, auquel on a beaucoup joué depuis Cannes, je trouve pas mal du tout. Et voilà, on tient compte un petit peu de tout ça. Et puis bon, voilà, il y a des polémiques qui se lentent, qui montent pas mal des fois, et qu'il faut relativiser un petit peu parce qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de raisons d'être. Sur le fond, on choisit des jeux de manière la plus honnête possible pour essayer de faire avancer le jeu de société. Et l'essentiel, c'est que le choix, il soit honnête. Je peux t'assurer que c'est le cas, quoi.
D'accord, mais c'est pas la peine de vous envoyer un chèque, alors. Juste faire
non,
un bon jeu.
Non. Ah là, ça marche pas, ça.
D'accord.
Mais tu parlais aussi, je crois, dans les commentaires, quand on avait commencé un peu à polémiquer dans le podcast, c'était...
Vous n'avez pas vraiment polémiqué, vous.
Non, en
fait,
non,
c'est très agréable, le fait de discuter sur les jeux, de ne pas être d'accord, déjà, c'est bien, parce qu'on peut en parler, et puis ça prouve que ce prix a une petite importance. Ce que j'apprécie, moi, parfois, c'est quand des gens s'amusent à dire c'est inadmissible que tel jeu ne soit pas dans la sélection, alors qu'ils ont joué à 5 jeux durant l'année, et qu'ils ne connaissent absolument pas les jeux qu'on a sélectionnés. Mmh. Mais bon, d'un autre côté, c'est tout à fait humain d'avoir envie de défendre les jeux qu'on connaît.
Mais je trouve ça, la disponibilité des jeux, je crois que tu avais parlé notamment d'Olympus, qui n'avait pas été finalement très disponible, par exemple, quoi, en décembre, vous avez fait poser des questions. C'est vrai que maintenant, les jeux à succès, on va dire, les tirages sont petits, les tirages de première édition sont petits, donc le jeu tombe rapidement en rupture s'il a du succès. Or, souvent, des jeux à succès, bah, c'est justement ceux qu'on va retrouver dans la sélection. Vous vérifiez pas ce point, enfin, c'est pas un point, mais tu vois, je veux dire, ça pourrait arriver qu'une fois, si ça se trouve, un jeu, ben, au moment où il est primé à Cannes, ben, là, il est tombé en rupture et qu'il va falloir attendre un petit moment pour en avoir. Est-ce que
tu parles de Takenoko là?
Non, pas ben, c'est vrai que Takenoko,
mais il est en rupture, je crois, hein, là, non?
Ouais, ouais, tout à fait, je pense.
Ouais. Dans tous les festivals, et puis que ça soit du jeu de société, de la bande dessinée, le prix concours, au moment où ils ont le prix, si le prix a une importance, le produit doit être en rupture. C'est presque dit. Alors c'est bien dommage.
Ouais, c'est ça.
C'est la preuve que le prix fonctionne. En bande dessinée, le bouquin qui remporte le prix à Angoulême, il est toujours en rupture juste après. C'est logique. Même si l'éditeur essaie d'anticiper au maximum. Le gros avantage qu'ont les éditeurs de livres, c'est qu'ils produisent leurs bouquins en France.
Ouais, c'est
que c'est pas un produit qui est très compliqué à éditer et que la rupture, elle est vite arrêtée. Il faut un mois, grosso modo, pour que le livre vienne en rayon, parfois moins. En jeu de société, il y a beaucoup d'éléments du jeu qui sont fabriqués en Chine et qui arrivent par conteneur pour limiter les prix.
Takenoko, c'est tout.
Hein, c'est un voyage en bateau qui peut durer 2 mois, je crois. Hein.
Ouais. Takenoko, voilà, c'est une chaîne, donc effectivement, il ne paiera pas, mais a priori, il aura duré à sort dès début mars, quoi.
Voilà, ça prend un certain temps. Ils ont peut-être anticipé sur Takenoko parce que le succès est assez gros. Donc, ils ont peut-être lancé la réédition, je ne sais pas, en janvier. Ouais, mais... Et du coup, il sera là début mars.
C'est des éditeurs modestes. Donc, jamais de grosse trésorerie à lancer pour un retirage. Ça revient toujours à quelques milliers d'exemplaires. Donc, on peut se douter que...
Voilà, il y a un phénomène qui est assez nouveau dans le jeu de société. Et ça, ce n'est pas lié à Cannes, c'est de manière générale. C'est qu'on a un public qui s'est élargi, un public maximum.
Oui.
C'est-à-dire que le potentiel de vente d'un jeu, le potentiel maximum, il est beaucoup plus élevé qu'il y a quelques années.
Ah oui, mais ça
se voit bien. Par contre, les ventes moyennes, elles restent... Les ventes moyennes d'un jeu restent un petit peu identiques. Et les éditeurs sont obligés de se baser sur ces ventes moyennes. Parce qu'ils ne vont pas mettre leur société en péril à chaque fois qu'ils éditent un jeu.
Oui, exactement.
Un éditeur comme Istari, par exemple, qui a beaucoup de succès sur ses jeux, il va tirer chacun d'entre eux à un nombre d'exemplaires relativement limité, parce qu'il ne faut pas trop prendre de risques non plus, ce qui est tout à fait compréhensible. Et à chaque fois, il se retrouve en rupture, parce qu'il tire de bons jeux, qui marchent très bien.
Ouais, Sherlock Holmes, justement, j'ai été étonné, il n'a pas semblé qu'il y ait eu la rupture habituelle.
Ouais, c'est, je ne sais pas où il l'édite, il faudrait lui poser la question, mais comme ouais, c'est à l'intérieur, c'est du papier, il n'y a peut-être pas besoin de l'éditer en Chine. Ouais. Il a été en rupture, hein, je crois, il en avait tiré un certain nombre.
Juste après Noël.
Il a dû le retirer déjà, parce que ça marche très très fort. Hein. Donc peut-être qu'il a plus de facilité pour le retirer et qu'il y a moins ce problème sur ce jeu-là en particulier, mais ce n'est pas le cas de tous.
Il y a un macaron As d'or jeu de l'année.
Oui.
Est-ce que vous imposez... alors voilà, comment ça se passe avec, avec les éditeurs ?
On apprécie énormément que le jeu soit... que le macaron soit sur la boîte. Ça ne peut pas être imposé. Alors quand tu dis vous, hein, c'est pas moi. Moi, je fais partie du jury, donc
oui,
je participe à la mise en place de la liste et au choix du prix. Mais par contre, ça, c'est une démarche du festival qui essaye de faire connaître le prix, qui travaille toute l'année là-dessus, qui font un boulot administratif qui est remarquable. Parce qu'il faut quand même insister sur le fait qu'on a une chance incroyable en France d'avoir une ville qui fait tout ce travail-là autour du jeu, qui met en place un festival, Olivier, t'as pu t'y rendre cette année, qui est remarquable quand même. Il y a beaucoup de monde et puis qui offre une visibilité aux jeux de société qu'il faut absolument mettre en avant et qu'il faut défendre parce qu'on a besoin de ça en France. Et donc ils font ce travail-là d'essayer de mettre le macaron sur les jeux et les éditeurs jouent le rôle. Là, depuis quelques années, ils les mettent ils les mettent tous, et sur ce que Skull & Roses, il y est. Le problème, c'est que il faut que la première édition soit épuisée pour que le macaron apparaisse. Donc parfois, ça met plusieurs mois. Bon, ce qui est normal. Hein. Il pourrait le rajouter en collant un sticker dessus, mais bon, c'est peut-être pas ce que nous, on a envie de voir. C'est pas des plus esthétiques. Il faut que ça soit intégré à l'habillage du jeu. Non, ça répond pas à ta question.
Si, tout à fait. Non, mais on a beaucoup parlé du poids de ce macaron. On n'était pas tout à fait d'accord avec Jérémy, justement.
Ouais.
Je pense que c'est important. On va pas refaire le débat, mais je pense que c'est ma vision des choses, c'est quand on ne connaît pas un domaine, on va plutôt s'orienter vers des jeux qui ont été primés. Enfin, vers des jeux ou des livres ou le Goncourt. Donc c'est effectivement pour des encore une fois, dans une optique de promotion du jeu de société, c'est important qu'il y ait ce...
Alors, si tu veux, moi, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes dans l'univers du jeu de société, mais j'ai ma petite expérience personnelle qui peut peut-être apporter la raison pour laquelle je trouve qu'ils sont très utiles, ces macarons, et puis les palmarès de festivals. C'est-à-dire que donc, j'étais pas dans un milieu de joueurs, et quand j'étais gamin, je me souviens très bien de la boîte d'Avalon avec le logo As d'Or. C'est la première fois que j'ai vu le logo As d'Or, moi... sur un jeu, donc j'ai toujours su ce que c'était Glace d'Or déjà, et ça a toujours été pour moi le gage d'un jeu de qualité. Et après, quand j'ai voulu me constituer une ludothèque, j'ai à la fois regardé un petit peu les jeux qui avaient des prix, alors à la fois le Spiel et puis Glace d'Or, puisque j'avais pas une connaissance absolue de tout ce qu'il fallait avoir, et ça a été ma première démarche pour essayer de construire ma ludothèque. Donc ça a eu une influence sur ma propre ludo. Et puis j'ai aussi été voir, alors ça n'a rien à voir, mais le site de Fiduti qui fait une ludothèque idéale qui maintenant est beaucoup trop large pour la personne qui va essayer de se lancer dans le monde du jeu, mais qui moi à l'époque m'avait bien servi aussi. Donc oui, je trouve que ça a une vraie influence, peut-être même plus que des prix comme Angoulême ou le Goncourt, parce que je ne sais pas si on retourne vraiment en arrière, je ne sais pas si on établit une bibliothèque en se disant tiens, je vais essayer d'avoir tous les Goncourt, mais moi j'avais essayé de prendre quelques As d'Or. Bon, après, c'est peut-être une démarche qui est particulière. Je ne suis pas sûr que tout le monde réagit de la même façon.
Si, mais j'ai fait pareil avec les Spiels, en fait. Il y a bien une époque, effectivement, où je me suis dit, tiens... Parce que moi, dans le jeu de société, ça fait longtemps que je suis dedans, mais après, il y a eu un moment où j'ai un peu arrêté. Et quand j'y suis revenu, bah, j'ai voulu rattraper les années que je n'ai pas joué. Et bah, forcément, je me suis intéressé aux Spiels. Mais c'était en plus... l'époque que j'ai manqué, c'est la fin des années 90, donc avec des jeux comme Tikal, enfin... des jeux qui étaient
orientés vers ce que je vois. Je me suis racheté Tikal aussi.
Ouais. Ah, voilà. Puis en plus, on trouve des quantités astronomiques des jeux du Spiel à Essen aux occasions, donc c'est facile de se fournir.
Donc voilà, moi je pense que ça a plutôt un rôle. Alors après, le but c'est qu'il n'y ait pas trop de prix pour pas perdre les visiteurs. Il faut qu'on ait un prix fort qui soit alors de préférence Glace d'Or, puisqu'on a l'avantage d'avoir une ville qui fait un travail remarquable autour du jeu et puis un événement qui compte quand même dans l'année. Donc voilà la raison pour laquelle ce prix. Il faut essayer que ça soit un prix important et il faut que le jury fasse le travail nécessaire pour que ça soit pas n'importe quoi, qu'il soit reconnu comme tel.
Non, c'est bien, c'est quand même bien.
Vous me rassurez.
Ouais, on a longuement parlé du salon lundi dernier. Ça va faire l'objet d'un dossier. Donc en fait, on va avoir deux dossiers sur le salon. On va avoir notre retour de Cannes et puis cette conversation. Et je disais que j'étais très très agréablement surpris de la qualité de ce qu'on pouvait trouver. Et vraiment, je ne connaissais que Essen et puis les petits salons de province, je dirais, des conventions de province. Et vraiment, c'est un très très beau salon en fait.
Oui, c'est énorme. Et puis, donc on a un petit peu de tout parce qu'on peut se plaindre du fait qu'il y a énormément de personnes, ce qui est valable surtout pour le samedi, qui effectivement est une journée qui est bondée. Il y a beaucoup de monde au off aussi, c'est pas un défaut, hein. Faut pas. Parce que sur les forums de spécialistes qui ont connu les années où il y avait moins de monde, ils regrettent le fait de ne pas pouvoir aborder les auteurs de manière aussi simple que c'était le cas avant. Bon, d'un autre côté, si on a envie de jouer à des jeux, c'est pas si difficile que ça, il suffit d'aller vers les tables. Et l'un des grands intérêts qu'on peut avoir au Festival de Cannes et ailleurs, c'est que les auteurs et les personnalités du monde du jeu sont très disponibles. On n'a pas tellement de difficultés à s'intégrer aux tables et puis à pouvoir jouer à des jeux qui nous font envie, si on attend le temps nécessaire derrière la table. Donc oui, moi je trouve que c'est un vrai plaisir d'aller à Cannes. C'est un événement majeur dans l'année. Il y a quelques autres festivals qui fonctionnent très bien, mais c'est vraiment celui où on va retrouver à peu près tout le monde, un ou deux éditeurs près qui auraient, à mon avis, tout intérêt à rejoindre la manifestation. Moi, je regrette le fait que je n'ai pas trouvé de table Edge cette année, parce que je suis assez amateur de leur jeu, et j'aurais bien aimé pouvoir voir ce qu'ils nous préparent, et puis regarder les jeux que je ne possède pas encore.
Et ils étaient présents, justement, du fait des demeures de l'épouvante, vous les aviez invités ou pas?
Ben, je pense que...
Encore au festival.
C'est pas moi qui fais les invitations. Je pense qu'ils sont... Les éditeurs, en fait, s'invitent eux-mêmes, je crois. Hein. Ils vont demander d'avoir un espace. Et s'ils le demandent, ils ont évidemment leur place. Les auteurs et puis les personnes qui sont nominées, donc les auteurs, l'éditeur, sont invités obligatoirement à la soirée.
D'accord.
Donc après, je sais pas qui est venu. J'ai pas regardé. Je peux pas vous dire exactement... Il y a quelqu'un qui est monté le soir sur la scène parce que pour chaque nominé, l'éditeur ou l'auteur viennent sur la scène et présentent leur jeu. Donc quelqu'un est monté, mais j'ai pas fait plus attention que ça de qui il s'agissait. Je les connais pas personnellement.
Ok.
Je crois qu'ils avaient pas de stand. Enfin, je suis presque sûr parce que j'en ai pas trouvé durant le festival.
Tu vas à Cannes pour bosser ou pour t'amuser?
Pour bosser. Non, j'ai rien à présenter, donc j'y vais essentiellement pour m'amuser. Alors il se trouve que.
Je t'ai vu bosser quand même, hein. je t'ai vu dédicacer.
Ouais.
Donc,
ouais, c'est un plaisir là. Ça n'a pas duré des heures. Non, j'y vais pour m'amuser. Alors j'ai quelques interviews, quelques dédicaces à faire, ce qui fait que j'ai loupé des jeux que j'avais très envie de voir. J'ai pas réussi à jouer à Season. C'était l'un de mes grands objectifs du festival. Et finalement, à chaque fois que je me retrouvais devant la table, il fallait que j'aille à l'autre bout du festival pour faire autre chose. Et donc, voilà. Mais à part ça, ouais, je me suis vraiment bien amusé. Et puis, si l'année prochaine, je ne fais pas partie du jury, j'irai quand même à Cannes pour m'amuser. Je pense que je réserverai mon petit hôtel et puis je ferai le trajet.
Comment ça se passe? Vous avez un mandat?
Non, ça se... Alors, il n'y a rien d'écrit. C'est le festival qui décide, hein, grosso modo, donc les personnes qui gèrent ça tous les ans, qui font un gros boulot là-dessus. J'essaye d'avoir un jury qui fonctionne, parce que ça paraît con de dire ça, mais c'est pas évident d'avoir des personnes qui arrivent à travailler ensemble, qui sont quand même, qui sont déjà pas des personnalités antinomiques, hein, qui sont capables de travailler ensemble, qui s'engueulent pas tout le temps, qui savent parler avec eux... Parce que tu sais, on met pas mal d'ego quand on présente des jeux, quand on ramène des jeux qui nous tiennent à cœur et puis qu'il faut parfois laisser de côté parce qu'il y a des arguments qui sont très valables et qu'on nous présente. Donc il faut réussir à pouvoir écouter les autres. C'est ça la principale qualité qu'on a pour faire partie d'un jury. Donc voilà, après, les gens du festival essayent de trouver 6 ou 7 personnes ou 8, je ne sais pas combien, qui arrivent à bosser ensemble. À partir de là, il n'y a pas de règles qui sont établies. Ce n'est pas évident de trouver des personnes parce qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement, dans le monde du jeu, qui soient disponibles pour faire le boulot. Ce qui explique probablement qu'il y en a qui sont là depuis longtemps. Et puis voilà, c'est les deux années auxquelles j'ai participé, ça fonctionnait très bien. J'espère que ça fonctionnera très bien l'année prochaine. Moi, je ne suis pas attaché plus que ça au rôle de jury. Hein. Je l'ai fait avec un grand plaisir parce que ça me permettait de participer à cet univers-là que j'aime beaucoup. Après, c'est un rôle qui est un petit peu particulier parce qu'on est à la fois juge et puis comme c'est un univers qui est tout petit, on est un peu copain avec des éditeurs à côté, des auteurs. C'est toujours un petit peu délicat comme rôle à jouer. Cet aspect-là, moi, il ne m'enchante pas plus que ça. Donc je ne suis pas attaché plus que ça à ce rôle-là. Je suis ravi d'y avoir participé, mais je laisse ma place sans problème s'il y a besoin de la laisser.
Ok.
C'est un appel à candidature pour d'autres.
Voilà, si tu peux te présenter. Je ne pense pas qu'il y ait de candidature. Hein. C'est vraiment le festival qui fait des prospections.
Non, mais
c'est important de le dire. Et puis, je pense que pour les autres membres, c'est tout à fait le cas. Mais j'ai déjà entendu Fall plusieurs fois dire que lui, il est très content de travailler pour le monde des jeux et puis fait un beau boulot là-dessus. Mais que s'il faut laisser sa place, il la laisse aussi. Il se trouve qu'on a besoin d'avoir des personnalités comme ça dans le jury, et moi je crois qu'il faut un Fall dans ce type de prix, parce que déjà il a un accès à tous les jeux, ce qui n'est pas évident pour tout le monde.
Mmh. Oui, donc, c'est ça. Ouais.
C'est important pour nous qui avons fait partie au jury, ou pour ceux qui y feront partie, de dire que voilà, c'est pas une place à vie, on n'est pas là pour. On n'est pas les tributaires d'une chaise comme à laquelle il y a les concours.
C'est vrai que vous n'avez pas aussi un président du jury, là, comme pour le festival du film. Il y a pas de...
Ah, je crois que ça n'a strictement rien à voir avec le festival
du film. Non, bien sûr, mais je sais bien. Mais...
Tout le fonctionnement, donc oui, il n'y a pas de président, puis il n'y a pas une assemblée qui change tous les ans.
Ouais,
il paraît que le festival du film de Cannes, le président a une importance décisive dans le choix des,
oui.
Dans le choix des films.
Oui, puis c'est un honneur, on va dire, d'être président du jury.
Il y a une grande différence entre le festival de Cannes du film et puis le... Ce prix-là, l'As d'Or, c'est qu'au Festival du film, il y a une vingtaine de films qui sont sélectionnés au début par quelqu'un dont c'est le métier. Et qui c'est lui, en fait, qui peut-être contribue pour beaucoup au choix de la Palme d'Or, puisqu'il arrive déjà à sélectionner quelques films en fonction de critères qui sont les siens et qu'on ne connaît pas forcément. Ici, là, en principe, on est censé tester les 700 jeux, ce qu'on essaie de faire le mieux possible, ce qui n'est pas évident.
Ouais, vu la production actuelle, forcément, c'est plus dur.
Et vu le nombre de jours dans l'année, c'est clair que...
Voilà.
C'est compliqué. Mais écoute, Martin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse de ton blog ?
Alors ça va être compliqué de le rappeler parce que je ne le connais même pas par cœur. Le plus simple, c'est d'aller dans Google puis de taper mon nom. Hein. C'est ce qui arrivera tout en haut du truc. Voilà. Ça doit être quelque chose du genre http://wittberg. Non, je ne suis même pas sûr.
wittberg.blog.com.
Un truc comme ça, ouais. Enfin, bon, Google, c'est pratique. Ça marche très bien.
Bon, on mettra le lien sur notre site.
et puis, juste pour finir, un petit mot sur ton actualité. Donc peut-être un troisième jeu chez Cocktail Games, ce que je disais tout à l'heure.
Voilà, il y a un deuxième jeu déjà qui va sortir début avril, donc qui s'appelle Si j'étais président, qui est très sympa, moi je trouve, qui fonctionne pas mal. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est un jeu familial, c'est un jeu pour jouer sur un coin de table au resto, qui consiste à composer son petit gouvernement à partir des personnalités préférées des Français. Donc on retrouve des Yannick Noah, des personnalités comme ça, et on essaye de faire un gouvernement qui fonctionne, qui représente un petit peu tous les ministères importants. Et ça fonctionne sur un principe de draft. Mathieu Despnous ne veut pas qu'on utilise le terme de draft, parce qu'il cherche vraiment à faire des jeux qui fonctionnent pour la famille, et c'est un mot qui fait peur.
Non, c'est une connotation trop gamer.
Voilà, je pense que sur Proxy Jeux, on peut l'utiliser. Ouais, c'est ça. Et puis bon, il y a des petits principes de base qui sont très rigolos, parce qu'on va jouer selon des principes différents selon la période du mandat. C'est-à-dire qu'il y a une phase où il faut avoir beaucoup de femmes, par exemple, et puis dans la phase de rigueur, là, il ne faut surtout pas de femmes dans le gouvernement. Des petites choses comme ça qui font que c'est rigolo, que ça change un peu la façon de jouer. Donc, je suis très content de ce jeu-là. Je trouve que le mécanisme, moi qui suis un peu gamer, c'est un peu plus gamer que... On n'est pas dans le gros jeu, hein, mais c'est un peu plus gamer que Castle of Con. Donc je serais ravi de le défendre. Et puis après, en principe, en début d'année prochaine, je devrais pouvoir faire un petit jeu tout seul cette fois-ci, qui est pas vraiment, qui est un OLNI, un objet ludique non identifié, qui est pas vraiment un jeu de société, qui est une compilation de rébus, on va appeler ça des rébus des énigmes en images qu'il faut identifier, donc sur des petites cartes carrées de chez Cocktail Games comme d'habitude.
Ça se met pas dans les toilettes ?
Sinon, mais on pourra les coller sur le frigo, par exemple.
D'accord, parce que les patates dans les toilettes, on a déjà vu, mais...
ouais, mais tu fais après les toilettes. J'ai trouvé super cette idée d'affiche.
Ouais, tout à fait.
À coller dans les toilettes, j'aimerais bien en faire une. Il faudrait que j'y réfléchisse.
Bah, voilà, parce qu'il faudra peut-être bien refaire une extension du Twin It.
Il y en a une, l'extension, qui était
plus. Oui, oui, je sais. Mais après.
Oui, oui, ouais. En tout cas, c'est une chouette affiche. Moi, j'aime beaucoup le Twin It.
Non, oui, mais j'ai ramené.
Ça sera un petit jeu avec des cartes qu'on pourra, par exemple, coller sur son frigo avec des magnettes. Et il faudra trouver l'énigme. Ça pourra prendre plusieurs heures. Éventuellement, il faudra y revenir pour essayer de trouver le fin mot de l'image. Le but du jeu, c'est de faire un petit jeu rigolo, hein, c'est tout. Mais c'est pas vraiment un jeu de société, puisque ça peut jouer tout seul. C'est juste des énigmes dans une boîte en fer.
Mmh. Ouais, ouais, très bien.
Et en termes d'actualité non ludique,
bon, rien de très particulier. C'est-à-dire que je continue à faire du dessin de presse sur Le Monde, et puis il y aura des recueils, un recueil qui sortira au même moment que celui qui est paru l'année dernière. Je n'ai pas grand-chose d'autre de prévu pour le moment. J'avance un petit peu au jour le jour, parce que j'ai beaucoup de boulot et j'arrive pas toujours à me coucher tôt, par exemple, et avoir des soirées de jeux qui durent longtemps.
D'accord. Très bien. Bah, écoute, merci encore énormément pour ce petit moment passé avec nous.
Bah, merci à vous.
Bah, écoute, à très bientôt dans un salon de TPSN. Donc, on rappelle de l'actu numéro 22, le dossier sur Cannes, et puis ton blog, vitberg.blog.lemonde.fr. À très bientôt, Martin.
À bientôt. Alors, Essen, j'aimerais beaucoup y aller, donc oui, on s'y retrouvera probablement. Il faudrait que je réfléchisse. Je parle pas un mot d'allemand, moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur.
Vous parlez qu'anglais?
Ouais, vaguement. Euphi, ouais, Croft, Snow.
Non, il y a beaucoup de français anglais, aussi, tu peux t'en sortir. Bien.
Donc, ouais, il faut que je cherche un petit peu les hôtels et puis le fonctionnement, mais je serais ravi d'y aller. Ouais. J'y suis jamais allé, donc j'ai très envie de faire le voyage. Sinon, je suis à l'Udinor dans 2 semaines. Je pense que quand le podcast passera, ce sera déjà fini.
Pas forcément. Il n'y aura pas beaucoup de monde qui l'aura écouté, mais j'ai une ambition de le mettre en ligne assez rapidement. Donc, alors, c'est un problème qu'on a avec le podcast, c'est qu'on est toujours en décalage. Ça arrivera peut-être le lundi de ton retour, en fait.
Ouais, ça va être ça.
Donc voilà, je serai à l'Udinor. Et puis d'accord. Bon, après, j'essaie de faire des festivals quand je peux les faire. Donc peut-être Toulouse, je n'ai pas encore décidé, parce que Toulouse a le malheur de tomber entre les deux tours de l'élection présidentielle à un moment où j'ai beaucoup de travail. Et en même temps, c'est un bon festival, donc j'aime bien y aller. On verra si j'arrive à faire le trajet.
Et l'UDESCO?
Je ne sais même pas ce que c'est, l'UDESCO. Ouais,
non, mais c'est le même week-end que l'Udinor, non?
Ah, c'est possible.
Ah, j'ai reçu un mail effectivement sur un festival qui tombait le même week-end que l'Udinor, auquel donc, du coup, je ne pourrais pas aller.
À la Chaux-de-Fonds.
Voilà, c'est ça, oui. Et celui-là, non, j'irai pas. Mais
c'est l'UDESCO, ouais.
Ouais. C'est sympa, ça, vous connaissez?
Bah, c'est surtout pas très loin de chez toi, a priori, bah, en fait.
Oui.
C'est moins loin que l'Udinor.
Ouais. Oui, je viens du Nord, moi, en même temps, donc ça ne me dérange pas de retourner l'île.
D'accord. Très bien.
Et vous en faites des festivals sur les mois qui viennent?
On va à Lyon et après éventuellement Valence. Toujours, c'est toujours un petit peu compliqué de trimballer la petite famille.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est un peu le problème. Moi, j'ai le même souci, sauf que je les laisse maintenant.
Voilà.
Ouais, mais non, moi, je fais pas.
Je leur ramène un jeu.
Quand on part déjà 5 jours pour Essonne, c'est déjà. Je suis toujours regardé d'un sale œil d'abandonner comme ça, femme et enfant, pour aller.
Et quand vous faites des soirées-jeux, c'est pareil, vous êtes bien obligé de quitter un petit peu la maison pour aller jouer.
On fait
c'est pas
5 jours.
Ouais.
Non, puis c'est avec madame en général.
C'est vrai, bon, ça va.
Et les enfants sont couchés. Ils abandonnent pas si loin.
Non, mais j'ai le même problème, hein. C'est pas évident de pouvoir quitter la maison puis partir pendant plusieurs jours. Alors j'ai l'excuse qu'il y a des raisons professionnelles derrière, il n'y a pas beaucoup quand même.
C'est pour ça que tu vis des jeux, alors. C'est pour aller dans
voilà, c'est la raison pour laquelle je participe au monde du jeu, c'est uniquement pour pouvoir aller dans des festivals.
Ah oui, je vais y penser.
Très bien.
Et vous allez avoir une ludopole, là, je crois, à Lyon, qui a l'air d'être un sacré projet. Je ne sais pas si ça vous intéresse directement.
Pas direct. Tu as dit oui, Jérémy?
Bah, j'ai dit, on va aller les rencontrer, forcément.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça va être un espace complètement dédié au jeu et au métier du jeu, avec une ludothèque qui s'appelle Cadélu, qui a déjà pignon sur rue à Lyon et qui anime fortement le monde du jeu à Lyon. On a deux cafés-jeux déjà qui ont déjà presque 10 ans d'existence. Et on va en avoir un troisième dans un quartier qui a complètement été refait, qui est entre Rhône et Saône, qui s'appelle Confluence. Et qui donc il y aura des boutiques, il y aura ce café-jeu, il y aura ces espaces de formation. Ça sera vraiment, quand on parle de ludopole, ce sera vraiment un ludopole. Quoi.
Oui, ça a l'air d'être assez exceptionnel en France. Ouais,
ouais. Ouais, mais Lyon a une, je pense, a vraiment une culture du jeu société.
Ben, j'ai l'impression, oui, j'ai fait 2-3 trajets là-bas et j'ai notamment visité le super magasin Archi Chouette qui est vraiment très beau, hein, ce magasin. Ouais.
Donc, pour expliquer à tout le monde, c'est une salle voûtée et on n'a pas des grandes étagères remplies de jeux, mais plutôt des sièges. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom, mais c'est des fauteuils confortables, des tables basses avec des jeux posés dessus. C'est vraiment, ils ont pris le contre-pied en fait des boutiques qu'on connaît.
Voilà, puis il y a plusieurs salles en enfilade qui sont très très chouettes, donc c'est agréable de se balader dedans. C'est un magasin qui porte bien son nom.
Donc voilà. Eh bien écoute, on va finir comme ça notre dossier en parlant de Lyon.
Oui.
On sera très très content de t'accueillir un moment ou un autre. Et puis voilà.